Bien, quand on a eu un baptême, on va parler de la notion d'épouse, d'union, de mariage, tout ce que ces choses représentent dans la Bible et tout ce que les apôtres, les prophètes nous enseignent au travers de ces symboles. On va encore une fois aborder le sujet de prédilection pour moi qui est l'épouse mystique de Christ, comment ces choses s'articulent dans l'architecture biblique, comment la pensée du plan de Dieu se révèle dans la parole de Dieu, comment quelqu'un qui se baptise s'inscrit dans ce plan divin. C'est extrêmement important de le comprendre pour un jeune chrétien. Dans quoi il s'engage, c'est ce que le Seigneur il attend de lui. Un baptisé, c'est quelqu'un qui porte le nom de Christ, c'est quelqu'un qui s'est uni à Christ, on peut considérer qu'il s'est marié à Christ. Désormais, un baptisé, c'est un chrétien, c'est un oint de l'Éternel. Cette nouvelle union, le Seigneur nous enseigne que ça s'inscrit dans un plan très vaste qui nous conduit de la terre, ici, jusque dans le ciel. Ce sont des mystères, ce sont des choses cachées pour l'humanité. Ce sont des choses cachées, mais qui sont révélées aux enfants de Dieu. Et l'apôtre Paul, il en parle. Dans Éphésiens 3, je peux lire ceci, 3:1. À cause de cela, moi, Paul, le prisonnier de Christ, pour vous, païens, si du moins vous avez appris quelle est la dispensation de la grâce de Dieu qui m'a été donnée pour vous, en les lisant, vous pouvez vous représenter l'intelligence que j'ai du mystère de Christ. En lisant les lettres de Paul, ses écrits. Il n'a pas été manifesté au Fils des hommes dans les autres générations, comme il a été révélé maintenant par l'Esprit aux saints apôtres et prophètes de Christ. Ce mystère, c'est que les païens sont co-héritiers, forment un même corps et participent à la même promesse en Jésus-Christ par l'Évangile. En effet, ici, Paul nous enseigne qu'il a été envoyé vers les païens pour leur annoncer la grâce en Jésus-Christ. Et que désormais, ils ont les mêmes droits, ils héritent des mêmes richesses et des mêmes promesses que les Juifs. En effet, désormais, un corps totalement constitué se forme avec d'un côté les nations et de l'autre côté les Juifs. Il y a eu un développement dans le plan de Dieu. L'Éternel a élargi son champ d'investigation, le champ de la moisson, qui avant était arrêté au peuple d'Israël, désormais s'ouvre sur le monde entier. Celui qui a été à l'initiative de cette ouverture, c'était Paul, car il a été appelé à aller vers les nations. C'est lui que le Seigneur a choisi pour non seulement prêcher à d'autres personnes que les Juifs, mais en plus de convaincre les autres apôtres de la justesse de sa mission. Parce que ce n'était pas évident au début pour les apôtres de croire que le Seigneur désormais accueillera tout le monde. Il avait déjà eu une vision où il voyait dans une couverture des reptiles, un tas de choses qui grouillaient là-dedans, qui étaient impures, et le Seigneur disait « mange ». C'était déjà les prémices des choses à venir. Déjà, le Seigneur préparait le cœur de l'apôtre à ce qui allait devenir la mission de Paul, qui était d'être l'apôtre des nations. Une ouverture allait se faire. Un corps nouveau allait se former. Quelque chose de neuf était en préparation. Désormais, le temps d'Israël allait s'arrêter et un temps nouveau allait commencer. C'était le temps des nations. Et ce temps des nations allait parachever l'œuvre de Christ, allait parachever l'œuvre de Dieu. Son plan allait s'accomplir dans le sens où désormais, c'est le monde entier qui s'ouvre à la grâce de Dieu. Et les enfants de Dieu vont apparaître partout, dans tous les pays du monde. et plus uniquement en Israël. Dans Éphésiens 5, 31, on peut lire ça. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et les deux deviendront une seule chair. Ce mystère est grand. Je dis cela par rapport à Christ et l'Église. En effet, un corps se forme. Ce corps nouveau qui se forme, en fait, il apparaît que c'est le corps de l'épouse. Que Christ s'est donné une contrepartie. Que Christ s'est donné une épouse divine. Cette épouse divine qui, avant, était uniquement Israël, à partir de maintenant, ce sera Israël plus les nations. C'est-à-dire le monde dans son entier. Et là, Paul nous dit que ça, c'est un mystère qui est très grand. L'idée du mariage, l'idée de l'union, l'idée de l'homme qui quitte ses parents pour aller vers son épouse, pour former un nouveau foyer, c'est une chose terrestre, mais qui nous enseigne que le Seigneur fait exactement la même chose dans le ciel. Ça rentre dans son plan divin. Désormais, les hommes de la terre quitteront leur foyer terrestre pour aller vers l'épouse céleste afin de consommer une union nouvelle, une union divine. C'est-à-dire le corps de Christ dans son ensemble, son épouse, désormais sera appelée à entrer en union d'esprit avec l'époux. Dans les nations, en Israël, tous ceux que le Seigneur appellera, en aussi grand nombre qu'il le voudra, eh bien, viendront et se joindront à lui. C'est le mystère de l'union. C'est le mystère du mariage divin. Cette chose-là, pour vous, c'est quelque chose qui doit sonner comme une évidence. Ça ne doit pas être quelque chose qui vous semble obscur, quelque chose d'inabordable. Mais au contraire, grâce au Saint-Esprit qui vous ouvre l'esprit, qui vous rend intelligent, intelligent sur la connaissance de la parole de Dieu, vous vous rendez compte que de quelque chose qui est banal au milieu des hommes, c'est-à-dire l'idée de l'union, l'idée du mariage, où deux êtres se réunissent pour former quelque chose de neuf, et à partir de là, créer une nouvelle cellule, et bien là, c'est exactement la même chose. Dieu, à partir de la crucifixion, à partir de l'œuvre du sacrifice de Jésus, et bien ouvre un nouveau champ où désormais un corps neuf peut s'étendre, peut grandir, peut se structurer, et ce corps neuf, qui est issu des nations, va devenir le corps de l'épouse de Christ. Le monde entier, maintenant, peut devenir l'épouse de Christ. Ça, c'est un mystère. C'est quelque chose qui échappe totalement et complètement aux hommes. Ils ne peuvent pas comprendre ces choses-là, parce que on peut le comprendre uniquement par le Saint-Esprit. C'est-à-dire, Dieu peut enfin exprimer totalement son amour dans le sens où il y a quelque chose qui peut répondre à cet amour. S'il n'y a rien devant soi, si on est seul, eh bien on peut être rempli d'autant d'amour qu'on veut, mais si on peut le transmettre à personne, c'est quelque chose qui est vide, c'est quelque chose qui est triste. Tandis que là, Dieu se donne le moyen de créer un réceptacle qui va pouvoir recevoir tout son amour. C'est-à-dire, l'œuvre de Dieu se structure, l'œuvre de Dieu et le plan de Dieu s'accomplissent dans un sens où l'amour de Dieu peut s'exprimer dans toute sa plénitude. Enfin, Dieu peut aimer, et il aime qui ? Il aime son épouse. Cette idée, Paul la développe encore en Éphésiens, un peu plus loin. En 5, 22, on peut lire ça. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur, car le mari est le chef de la femme, comme Christ est le chef de l'Église, qui est son corps et dont il est le sauveur. Or, de même que l'Église est soumise à Christ, les femmes aussi doivent l'être à leur mari en toutes choses. Et pour vous, les maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elles, afin de la sanctifier par la parole, après avoir purifié par le baptême d'eau, afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. » En effet, là, Paul développe le sujet du mariage, c'est-à-dire un plan, il se fait un corps, Ce corps représente l'épouse qui l'attend. Au travers de cette épouse, il peut exprimer tout son amour. Et pour qu'on comprenne mieux le sens de sa pensée, Paul développe ça. Comme les choses se passent, en fait, dans un couple ordinaire ici sur la terre. Alors, vous, les épouses, vous devez être soumises à votre mari, exactement comme l'Église, elle, doit être soumise à Jésus-Christ. L'écouter, lui obéir, croire en lui, c'est-à-dire le Seigneur nous commande quelque chose, on exécute, on est soumis à sa parole, on est attentif, on le croit. Et si on fait ça, eh ben, on a cette haute assurance, c'est que cet époux, eh ben, lui donne la garantie de tout son amour, comme le Seigneur le dit ici, au travers de la voix de Paul. Le Seigneur a tant aimé l'Église, a tant aimé son épouse, qu'il s'est livré lui-même pour elle, afin de la sanctifier par la parole, c'est-à-dire la parole de Dieu nous sanctifie. Jésus est la parole de Dieu. On l'a déjà vu maintes fois, c'est que Jésus, dans sa vie, a transcrit physiquement, au travers de sa personne, la loi de Dieu. Il l'a accomplie dans sa totalité. Il est devenu la parole vivante. Au travers de cet acte, au travers de son engagement, de sa vie, qui a été parfaite selon les Écritures, en s'inscrivant totalement dans le plan de Dieu, en suivant à la lettre tout ce qui était marqué, eh bien, il s'est sanctifié. Il est devenu parfait, il est devenu Dieu lui-même, une parole vivante. Ce faisant, eh bien, nous qui nous baptisons en lui, eh bien, nous sommes sanctifiés par son acte. C'est-à-dire que nous devenons, nous accédons à la divinité grâce à son œuvre. On se baptise, c'est qu'on croit en son sacrifice, on croit à son œuvre, mais on croit aussi qu'il est la parole vivante. On croit qu'il est la loi, on croit qu'il est la grâce, on croit qu'il est l'amour. Donc la parole vivante de Dieu nous sanctifie. Elle nous sanctifie parce que Dieu a jugé Christ saint et parfait. Là encore, nous rentrons dans une conception où nous devons nous détacher des pensées humaines et terrestres et nous projeter dans le divin, où nous partageons la totale divinité avec Christ. Si nous faisons un en lui, eh ben, lui fera un avec nous. Exactement comme quand il a dit, moi je fais un avec le Père. Si on voit Jésus, on voit le Père. Si on voit Jésus, on voit la parole de Dieu, l'accomplissement des promesses, l'accomplissement des prophéties, l'accomplissement de la loi. C'est l'expression vivante de la parole de Dieu. On voit Dieu lui-même exprimé en tant qu'homme. Si nous nous unissons à cette expression, si nous faisons un avec lui, si nous marions avec Jésus-Christ, si nous engageons dans le baptême et que nous faisons cette union que Dieu souhaite ardemment, eh bien, nous participons à cette divinité, nous participons encore à l'union avec Christ. Nous engageons dans les eaux du baptême, nous entrons dans le corps de l'épouse mystique de Christ, nous appartenons à ce corps, nous sommes partie de ce corps, et ce faisant, eh bien, nous sommes unis à Christ et nous participons totalement et complètement à cette divinité. Nous devenons des fils de Dieu, nous devenons des oints de Dieu. Voilà donc le grand but de l'union de Christ et de l'Église. C'est que cette Église soit parfaitement sainte. Et on peut, nous, devenir saints, parce que uniquement Dieu est saint, quand nous nous engageons dans les eaux du baptême, que nous confessons que Jésus est mort pour nous, nous qui sommes pécheurs, que nous croyons, que nous avons la foi en cela, cet acte-là nous projette, nous amène directement dans l'union avec Dieu. Nous faisons partie de son corps et nous faisons un avec lui en esprit. Nous sommes donc une unité mariée, nous sommes donc un corps constitué où Jésus et son épouse ne font plus qu'un. Et ça, c'est l'accomplissement de la volonté et du plan de Dieu. L'apôtre Jean nous dit dans l'Apocalypse, en 7,14, qu'il vit ceux qui avaient lavé et blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. Qui c'est qui porte une robe lavée dans le sang de l'agneau ? Ben c'est tous ceux qui se sont baptisés. Ils se sont baptisés en quoi ? Ils se sont baptisés en Jésus, ce qui veut dire qu'ils sont morts avec lui sur la croix, mais aussi ressuscités avec lui. C'est ce que nous enseignent les évangiles. Jésus est mort pour nos péchés. Jésus est mort pour nos manquements, pour nos fautes. Ça, nous le reconnaissons. Nous reconnaissons que Jésus est mort pour nous. Nous nous baptisons. Nos fautes reposent sur lui. Et nous mourons avec lui sur la croix. Mais par contre, en contrepartie, puisque nous avons eu foi dans le sacrifice de Jésus, Jésus nous transmet sa vie. Et nous ressuscitons avec lui. L'esprit de vie de Dieu pénètre en nous et nous vivons aussi avec lui. Nous sommes co-héritiers avec lui. Donc, les gens qui, par la foi, s'engagent dans les eaux du baptême, les gens qui croient que Jésus est mort pour eux, eh ben, s'ils restent dans cette foi, s'ils restent dans cette conviction, si leur vie durant ils ne varie pas d'un iota par rapport à cette exigence de Dieu, eh ben, ils ont cette certitude et cette garantie qu'ils ne paraîtront pas nus devant l'Éternel et qu'ils porteront la robe, et de surcroît une robe lavée par le sang de l'agneau. Parce que c'est notre conviction, c'est notre foi, c'est notre espérance. Nous croyons que nous sommes justifiés par le sacrifice de Jésus-Christ. Nous le confessons, nous le reconnaissons, et c'est pour ça qu'on se baptise, et pour rien d'autre. On se baptise parce qu'on croit, on est certain que Jésus nous sauve, qu'il est mort pour nous. Nous les pécheurs. Ce qui est aussi intéressant de voir, c'est que ceux qui croient en Jésus-Christ, qui acceptent de le suivre, ne portent pas une toge, ne portent pas un peigne, ne portent pas un t-shirt, ne portent pas une tunique, portent une robe. C'est pas anodin, c'est pas un détail insignifiant dans la parole de Dieu. Tout de suite, dans la parole de Dieu, il n'y a jamais de détail insignifiant. Chaque chose parle pour peu qu'on y soit attentif. Pourquoi donc Jésus, qui a justifié son peuple, qui a justifié son épouse, lui demande de porter une robe? Pourquoi les enfants de Dieu portent-ils une robe? On va voir ça un peu plus loin. Moïse, en nous révélant la sainteté de Dieu et de ses voies pour sanctifier son peuple, nous montre les sacrificateurs, et particulièrement les souverains sacrificateurs, comme les représentants de la sainteté de Dieu dans l'homme. Chez les sacrificateurs eux-mêmes, l'huile d'onction était le symbole de la grâce qui sanctifie. Moïse devait faire lui-même une onction d'huile. Prendra de l'huile d'onction et tu en feras l'aspersion sur Aaron et ses fils. Ainsi seront consacrés Aaron et ses fils. Et après les indications données à Moïse pour la fabrication de cette huile, l'Éternel ajoute « Pour de l'onction sainte, ce sera pour moi de l'huile sainte. On n'en prendra point sur le corps d'un homme, et vous n'en ferez point de semblable dans les mêmes proportions. Elle est sainte et vous la regarderez comme sainte. » Les sacrificateurs, et spécialement les souverains sacrificateurs, devaient être voints et consacrés. Le prêtre qui a la supériorité sur ses frères, sur la tête duquel a été répandue l'huile d'onction, ne sortira point du sanctuaire et ne profanera point le sanctuaire de son Dieu. Car l'huile de l'onction de son Dieu est une couronne sur lui. Les personnes qui portent la robe dans le peuple d'Israël, ce sont les sacrificateurs. Et les sacrificateurs, comme nous voulons le voir, ce sont des personnes consacrées. Consacrées parce que l'Éternel a institué un rite, qui est un rite sacré, qui est le rite de l'onction. On verse de l'huile sur la tête d'une personne, et cette personne est reconnue comme sainte et consacrée par l'Éternel. Le sacrificateur est la personne consacrée pour le Seigneur. Elle travaille exclusivement pour lui. C'est la seule personne qui est autorisée à rentrer dans le tabernacle. C'est la seule personne qui peut officier au nom de l'Éternel, qui peut sacrifier, qui peut rentrer dans le tabernacle, dans le lieu saint, Et seul le grand sacrificateur peut rentrer dans le lieu très saint. Personne d'autre ne peut le faire. Et ils le sont parce que Dieu les a consacrés, les a oints pour ça. En portant l'onction, ils sont déclarés saints. En portant la robe, ils font la démonstration de ce qu'ils représentent au milieu du peuple. La robe, c'est le symbole qui montre à tout le monde que la personne qu'ils ont en face d'eux, c'est un sacrificateur. Un sacrificateur qui est oint est reconnu saint par l'Éternel et il est déclaré aussi consacré à l'Éternel. Nous avons là une promesse qui nous est aussi faite par le Seigneur. Il dit, si vous vous engagez pour moi, si vous confessez mon nom, si vous vous baptisez, eh bien, je vous revêtirai d'une robe. Cette robe, elle aura cette particularité, c'est qu'elle sera parfaitement blanche, pure, parce qu'elle aura été lavée dans mon sang. Portez mon nom, vous avez été baptisé dans mon nom, eh bien, vous avez été lavé dans mon sang. Portez la robe. Et le fait de porter la robe, eh c'est que moi je vous déclare à mon service, consacré à moi, vous m'appartenez, vous êtes mon peuple saint. Les sacrificateurs étaient les gens consacrés pour l'Éternel. Quand le Seigneur vous appelle au baptême, ce qu'il attend de vous, c'est que vous soyez consacrés à sa personne. C'est que vous sortiez du champ habituel des activités humaines pour lui être exclusivement consacrés. Si ce faisant, vous acceptez cette mission, si ce faisant, vous acceptez cette fonction, eh bien, l'Éternel vous déclare saint. L'Éternel vous retranche du sein des nations, vous écarte du monde pour vous entraîner, pour vous amener dans le lieu de sa résidence, pour vous amener là où il est, là où est sa présence, c'est-à-dire du temps d'Aaron, le tabernacle. Sortez du monde, venez à moi, soyez baptisés, je vous ferai porter la robe, je vous oindrai d'une huile sainte, vous allez devenir consacrés, vous allez m'appartenir, vous êtes mon peuple, venez rentrer dans ma maison, vous êtes désormais à moi, le peuple consacré. C'est ça un chrétien. Un chrétien, ça veut dire un oint. Il porte la robe du sacrificateur parce qu'il est consacré à l'Éternel, et parce qu'il est oint. Parce qu'il a cette huile sainte sur lui qui est l'image du Saint-Esprit, eh ben, il est reconnu comme saint par le Seigneur. C'est-à-dire qu'il accède au niveau de la divinité parce que seul Dieu est saint. Un homme que Dieu déclare saint, eh ben, c'est un homme qui est intégré dans le corps du Seigneur. C'est un homme qui fait un avec l'Éternel. Lui et l'Éternel, c'est la même chose. Ils font partie du même corps. C'est une union, c'est une noce, c'est un mariage. Cette idée d'union et de mariage, on la retrouve développée encore plus dans Apocalypse 12. Dans Apocalypse 12 apparaît en majesté l'épouse de Christ. Et elle nous est décrite ainsi. Un grand signe parut dans le ciel. Une femme enveloppée du soleil, la lune sous ses pieds, et une couronne de 12 étoiles sur la tête. Nous avons donc une épouse en majesté qui apparaît. Une épouse couronnée. Et comme on l'a vu là, l'huile de l'onction de son Dieu est une couronne sur lui, sur le sacrificateur. Un peuple de sacrificateurs est une épouse couronnée. Nous avons donc un développement qui se fait. Nous avons donc une structure de la pensée de l'Éternel qui se révèle au travers des Écritures. On parle d'une idée, qui est une idée simple à comprendre, qui est l'idée du mariage, et on la développe dans le sens du divin, dans le sens où c'est le Seigneur qui, au travers du symbole du mariage, exprime quelle est sa volonté, quel est son plan divin. Si on cherche un peu plus loin dans les Écritures, on se rend compte que la première des créations de Dieu, c'est Christ. C'est avant même qu'il fasse toute chose. Il était présent dans son esprit, Christ. Toute la création tourne autour de cette idée. Christ est le centre. Si aujourd'hui le monde existe, c'est afin que Christ paraisse. Si aujourd'hui le monde est ce qu'il est, c'est afin qu'il vienne vers Christ et s'unisse à lui. C'est ça le plan divin de Dieu. C'est ça la seule et unique démarche acceptable pour Dieu. Les hommes n'ont pas été faits pour courir à droite à gauche après de vains plaisirs ou profiter de la vie, comme on dit. Non. Les hommes ont été créés dans un but. La création est là, c'est la volonté de Dieu, afin qu'une épouse paraisse et que Dieu puisse projeter tout son amour sur cette épouse. C'est ça le véritable plan divin, c'est ça que Dieu veut faire. C'est ça son espérance et sa pleine volonté. Dieu, ce qu'il veut, c'est pouvoir sauver tout le monde. Encore faut-il pour ça qu'on l'accepte. Encore faut-il qu'on laisse une place dans notre cœur pour que ce message d'amour puisse rentrer et puis qu'on puisse y répondre. Mais si on a cette grâce, puis si on a cette sensibilité, et si on répond à cet amour, eh bien alors les portes s'ouvrent et on rentre dans un monde nouveau. On participe à une œuvre nouvelle. On entre dans un corps neuf, un corps parfait, le corps de l'épouse. Et alors, nous rentrons aussi dans la promesse de Dieu. En devenant un baptisé, eh bien, on entre dans le corps de l'épouse. En devenant un baptisé, on devient un roi. En devenant un baptisé, on porte la robe. En devenant un baptisé, on devient un sacrificateur. En devenant un baptisé, nous rentrons dans le corps des sacrificateurs de Dieu. Nous devenons des êtres consacrés. Nous lui appartenons. Nous lui obéissons. Nous sommes à son service. Ce faisant, nous participons au plan de Dieu. Les sacrificateurs, ils avaient aussi une autre fonction. Ils œuvraient pas uniquement dans le tabernacle, mais c'est aussi eux qui le transportaient, c'est aussi eux qui le montaient, c'est aussi eux qui le bâtissaient. Parce que le tabernacle dans le désert, quand le peuple était dans ses pérégrinations, et puis qu'il était dans son exode, à chaque fois qu'il s'arrêtait à quelque part, que l'Éternel le disait, voilà, on fera le campement, c'est les sacrificateurs qui remontaient le tabernacle. Donc, c'était uniquement le peuple consacré, ceux que l'Éternel avait désigné, qui avaient le droit à la fois et d'officier, mais aussi de participer à la construction de ce tabernacle. Cette idée est aussi développée en Éphésiens 3. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Ça veut dire que, en tant que peuple consacré, vous appartenez au Seigneur afin que son amour puisse s'exprimer en vous, mais c'est plus que ça encore. C'est vous devenez le réceptacle de son esprit, vous devenez le cœur qui reçoit son amour, vous devenez donc son habitation. Lui, ce que le Seigneur y veut, c'est habiter dans l'homme. C'est faire un avec lui. Pourquoi ? Parce que le Seigneur est esprit. Notre Dieu est un esprit saint, il est parfait, et son désir, c'est que son amour parfait puisse s'exprimer en nous, et cette chose est désormais possible grâce au sacrifice de Jésus, qui nous déclare saints. Donc nous pouvons nous unir parfaitement à lui, et cette union, ce mariage, eh bien, crée les circonstances d'une édification nouvelle dans le sens où nous devenons l'habitation de Dieu. Du temps d'Israël, quand ils étaient encore dans le désert, nous avions un tabernacle, et ce tabernacle représentait la maison dans laquelle habitait le Seigneur. Il habitait dans cette tente-là. C'était son lieu de résidence, et le peuple, il était tout autour. Le peuple d'Israël était en étoile disséminée autour du tabernacle. Et uniquement les sacrificateurs avaient le droit de rentrer dans cet édifice. Ces sacrificateurs qui bâtissaient cet édifice, l'apôtre Paul nous dit qu'ils sont eux-mêmes l'édifice. En nous assimilant à des sacrificateurs, nous assimilons à ceux qui bâtissent la construction et la maison de l'Éternel. Et ce faisant, nous devenons nous-mêmes le lieu de résidence de l'Éternel. Nous devenons l'endroit où l'Éternel aime à reposer. devenons l'endroit où l'Éternel aime à être. Nous devenons le tabernacle de l'Éternel. Je relis ça. Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres. Le fondement des apôtres, c'est quoi? C'est croire dans les évangiles, c'est croire que Jésus-Christ est mort pour nous, c'est être baptisé, recevoir le Saint-Esprit. Ce faisant, une vie nouvelle commence pour nous, et nous devenons le peuple consacré de Dieu, édifié sur le fondement des apôtres et des prophètes. Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. Autrement dit, de l'enseignement des apôtres, dans tout ce qui a été annoncé par les prophètes, la base de toutes ces choses-là, c'est Christ. Les prophètes ont annoncé Jésus-Christ. Les apôtres ont annoncé l'évangile de Jésus-Christ. Le fondement de toutes ces choses-là, la pierre sur laquelle on peut bâtir, c'est Jésus-Christ. En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Vous, les baptisés, vous, qui est appelé à la prêtrise, ou qui est appelé à porter la robe, vous êtes plus que ça. Vous n'êtes pas seulement appelé à être saint, vous n'êtes pas appelé uniquement à officier dans le tabernacle, vous êtes appelé à devenir le tabernacle. Les hommes sont identifiés au temple du Seigneur. Les hommes et Dieu ne font plus qu'un. Désormais, Dieu ne marchera plus à côté des hommes, Dieu ne dirigera plus les hommes en marchant devant le peuple, mais désormais Dieu sera dans les hommes et il les conduira de l'intérieur.